Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous et à toutes et merci de nous choisir sur la 93.5. Nous sommes aujourd'hui au jeudi 5 septembre 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Et quand il sonne 11h, vous comprenez que c'est l'émission au Club de la Presse qui démarre. Nous démarrons même l'émission, le quatrième numéro pour le compte de cette semaine. Ainsi, bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takbamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koutouazi à Daparon est là. Vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège alors de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. N'oubliez pas, vous pouvez également nous capter à travers nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat, l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Vous savez, nous sommes au jeudi et jeudi, ça rime bien avec Ambroise Kondo. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour les confrères ici présents. Bonjour les auditeurs qui nous suivent depuis l'intérieur et à l'extérieur du Togo. Je voudrais, si tu le permets, commencer par... cette petite enquête que nous avons commencé par mener à Thiévié concernant les médicaments de rue. Mais au cours de nos enquêtes, nous sommes allés découvrir qu'il y a un problème. Il y a un problème de distribution de médicaments au niveau des officines. Bon, nous avons constaté qu'il y a une officine de fortune qui a été installée par des individus non clairement identifiés à l'entrée de l'hôpital de Thiévié. En fait, leur activité est normalement limitée à certains produits courants, notamment les génériques et autres, mais ils se permettent, selon nos informations, de vendre des produits de spécialité exclusivement réservés aux officines privées sans payer des taxes à l'État, pendant que les pharmacies, elles autres, en souffrent et paient normalement la taxe sur chaque médicament. Bon, ce comportement, nous, on veut commencer par dénoncer en attendant de revenir sur un grand dossier, crée une concurrence déloyale et réduit considérablement les clients de ces officines privées et fait chuter leur chiffre d'affaires. Je crois que c'est un réseau, d'après nos investigations, il y a un réseau qui est là. Il y a des pharmacies, 3 pharmacies à Thiévié. Maintenant, c'est l'hôpital de Thiévié, la pharmacie qui est là, qui sert maintenant les clients de ces officines. Mmh. Imaginez tout l'investissement que les pharmaciens ou les pharmacies, les 3 pharmacies ont fait, ce serait tomber à l'eau. Donc, nous continuons l'investigation et on viendra là-dessus.
D'accord, ça me fera tellement plaisir d'en parler dès que les investigations sont à terme et que les résultats sont là. Merci beaucoup, Ambroise, pour cette interpellation. Maglo Akinviteko, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Ça va, je vais bien, mais alors très bien.
J'espère que... c'est vrai que ça fait pratiquement 2 jours qu'on ne s'est plus vu là.
Oui, vous savez que... tout le temps que Dieu le permet, on n'hésite pas de répondre au rendez-vous du Club de la Presse.
Tout à fait.
Et ces 2 jours-ci, je le disais tantôt que je suis très content ce matin, mais alors très content.
Oui.
Parce que mes oncles maternels sont en fête.
Ah.
Et ça m'implique un peu dans l'organisation. Et c'est pour
ça. Je pense que c'est Koumabala.
Ah bien sûr, voilà. Koumabala sur la montagne.
Sur la montagne, voilà.
Et donc ce sera ce week-end, le samedi le 7. Michel sourit, il connaît Koumabala pour avoir vécu justement cette ambiance assez extraordinaire. Ceux qui sont amoureux des aventures touristiques, eh bien je les invite ce week-end à Koumabala pour découvrir encore les secrets cachés du canton de Kouma, de la commune de Kloto 3 et surtout d'Agoudié, qui est donc cette fête de retrouvailles.
Je pense que nous sommes tous invités à cette fête, ou
bien sûr.
Ou bien nous allons recevoir notre invitation à part.
Vous savez, c'est sans protocole.
D'accord.
Heureusement qu'il y a Ambroise ici.
Oui.
Il y a le docteur qui est à côté. Il y a Michel.
Tout à fait.
Je crois que je serai très ravi de vous accueillir avec nous le week-end prochain.
Tout à fait. Ce serait vraiment avec.
Vous ne regretterez pas.
Justement, ce serait avec grand plaisir pour nous de participer à cette fête. Je sais quand même que j'ai une fois participé à cette fête et ça a été vraiment. Justement, je suis un témoin vivant. Alors, Michel, je ne sais pas si toi tu l'as déjà participé. Sinon, moi, personnellement, je suis un témoin vivant. Je peux en parler. Bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour au Club de la Presse. Je pense que Koumambala, c'est un coin très intéressant du Cloto, ou comment on dit ça là ?
La préfecture de
Cloto. De la préfecture de Cloto.
De la préfecture de Cloto. Et je m'y rends régulièrement là-bas. Et j'ai une ou deux fois croisé à Mangloire. Je n'ai pas encore participé à cette fête-là, mais cette fois-ci, je voulais m'y rendre. Mais pour certaines raisons, je vais encore rater ça cette année et peut-être l'année prochaine, je serai de la partie. C'est pour dire que, comme c'est le moment des fêtes traditionnelles surtout, et chaque fois qu'on a l'occasion, il faut vraiment participer.
D'accord.
C'est très intéressant.
C'est très intéressant, justement. Alors, Michel, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil à un service qui abat un travail impeccable, puisque les témoignages, nous recevons les témoignages. Même avant de commencer cette émission, il y a un auditeur qui m'a appelé pour cela. Je veux bien parler alors du service du casier judiciaire. L'ami me disait que déjà à 6h, il a demandé le casier judiciaire et quelques heures plus tard, on lui a dit alors de venir prendre alors ce casier, le document qui est prêt. Et effectivement, à partir de 10h, quand il s'y est rendu, automatiquement, on lui a délivré même d'ailleurs son casier judiciaire sans protocole. Et il voudrait vraiment quand même qu'on en parle. Je pense que c'est très important. Et de féliciter surtout les dames et les messieurs qui travaillent là-bas.
Oui, en réalité, chaque fois qu'un service de l'État fait des efforts, il faut vraiment le féliciter. Je sais que dans un passé récent, c'était difficile pour obtenir son casier judiciaire. Vous vous rappelez au temps du Covid, ou même c'était une boîte à Covid-19 là-bas, parce que les gens s'agglutinaient. Moi-même, je me suis rendu, j'ai vu comment ça se passait. C'était vraiment horrible. Les gens à 4h30 sont là-bas, dans des queues, pour avoir ne serait-ce que le casier judiciaire. C'était un peu compliqué. Dès lors qu'on a digitalisé ce service et qu'on demande qu'à partir de votre téléphone, que vous rentrez en possession, en tout cas que vous rentrez les données pour que vous puissiez avoir votre casier judiciaire quelques jours plus tard ou quelques heures, comme vous le dites, quelques heures plus tard, je pense que c'est un effort supplémentaire qui est fait. Et si ça doit continuer ainsi, on doit quand même féliciter le service pour avoir fait des efforts. Parce que dans le passé, ce n'était pas comme ça. C'était difficile pour l'obtention de ce document administratif. Donc, si le service des casiers judiciaires vient s'ajouter à l'Institut national des jeunes ou au service passeport. Parce que nous, on identifie ces services-là. Le service passeport, le service de la documentation, l'Institut national des jeunes, c'est des services, quand vous vous rendez, vous avez l'impression de ne pas être au Togo. Vous pensez être ailleurs.
Et pourtant, c'est au Togo.
Parce que la qualité, pourtant c'est au Togo. La qualité du service est vraiment remarquable. Et ces services, nous les citons à tout moment. Ceux qui veulent, peuvent aller faire leur propre enquête, ils verront que nous ne sommes pas en train de raconter notre vie. Si le service de casier vient s'ajouter, tant mieux. Parce qu'avant, moi, je ne l'avais pas dans
votre liste.
Dans ma liste, pour des services.
Mais cette fois-ci, il faut l'ajouter à votre liste, c'est très important.
Je vais vérifier moi-même.
D'accord, quelqu'un a fait vraiment l'expérience, quelqu'un que tu connais très bien a fait l'expérience. Ambrose ?
Oui, Pascal, moi, je voudrais prendre en parallèle un autre sujet lié aux institutions, justement, par rapport à ces genres de documents. Vous savez, il y a un truc qui se passe dans le pays que personne ne dit. Surtout, vous, la génération de 80 jusqu'à aujourd'hui n'en connaissent pas ce problème. Il s'agit de ceux-là qui sont nés dans les années 70, quand Yadema et Mobutu se sont mis dans leur legédé pour changer, permettez-moi le terme, pour changer le nom, les noms importés. Vous vous rappelez l'authenticité?
Tout à fait.
Et beaucoup de gens sont victimes actuellement, y compris moi. Moi qui fais la carte depuis plus de 30 ans, moi j'ai fait ma carte depuis plus de 30 ans, j'ai mon passeport, renouvelé d'ailleurs. La dernière fois j'étais allé pour faire ma carte, ça fait, non, c'est en janvier, on me dit que c'est pas possible, qu'il y a un numéro qui se trouve dans ma nationalité et qui ne se retrouve pas sur la naissance rectificative. Parce que la naissance a été rectifiée pour qu'on puisse enlever le nom importé, pour garder Kondio Yaomaoussé, au lieu de Kondio Yaotan. Donc, vous devez aller maintenant chercher le numéro, la souche. À l'origine, là où vous êtes ici, à Dapon, vous allez à Dapon. Si c'est en Chine, vous allez en Chine. Donc, ouais. Moi, je suis allé chez moi vers le Zion. Sauf que ceux-là qui ont géré l'état civil en ce moment-là, souvent, c'est des soulards. Si ce ne sont pas des soulards, soit c'est des enseignants qui retraités, qui prennent le plaisir de prendre, comment vous l'appelez, les registres sur les aisselles qui circulent dans les bars, tout ça là. Et ils ont perdu des trucs.
Effectivement, ce problème s'est posé surtout dans le Golfe 6, à Baguida aussi.
Oui, où, c'est dans tout le Togo. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont ce problème. Celui qui est en face de moi, le même problème. Il y a même des provisions qui ont le même problème. Et maintenant, est-ce que la faute est à nous? La faute n'est pas à nous. Ils sont allés chercher, ils n'ont pas trouvé la souche. Et donc, on doit faire un jugement. On doit faire une page de restitution, de reconstitution. Tout ça, là, c'est une affaire de justice. C'est les greffiers qui s'en chargent. Et après, vous retournez à la mairie, vous payez 50 000, 40 ou 50 000, ce que nous on a payé. Depuis janvier, je n'ai pas encore reçu. Alors que la carte est expirée, le passeport est expiré, tout est expiré. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mécanisme pour permettre à celui qui est togolais de choses? C'est-à-dire que né de père, né de mère, togolais, en dehors des Ouïghours, des autres nationalités qui cherchent à avoir notre passeport, notre nationalité, pour qu'on puisse continuer par vivre d'abord avant que la justice ne tienne pas rien chez moi. Je viens être prêt avec des dossiers de terrain et il faut prendre au moins 6 mois, 1 an avant que d'entrer dans votre droit, qu'on reconstitue votre dossier. Vous allez maintenant chercher la naissance où on écrit derrière tout ceci et vous allez refaire encore une autre nationalité. Je crois que le ministre de la Justice et les services de sécurité doivent nous aider à jouir de vos documents d'abord.
D'accord.
Parce merci. Que je ne suis pas un étranger. Merci. Tout le monde sait que je suis togolais. Et c'est parce que les confrères n'ont pas ce problème. Hein. Passeport expiré. Mais tu dois avoir ta naissance avant maintenant de modifier la nationalité, faire une autre nationalité avant d'avoir ta carte. Et ça me met moi en courroux. Et beaucoup de gens sont mécontents pour ça. Trouver un mécanisme pour que nous puissions jouir de nos cartes, qu'on nous fasse la carte d'abord. En attendant que le problème soit réglé au niveau d'accord. de la justice.
Ok, merci beaucoup. Et l'homme Mathis Obé nous a rejoint. Et l'homme, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ça va, on est là.
D'accord. Nous avons un invité, c'est monsieur Avulete Kodjo. J'allais dire docteur, bonjour.
Ah, bonjour Pascal, bonjour au directeur de publication. Félicitations pour la résilience et pour le travail que vous faites. Et bonjour à ceux qui nous écoutent.
D'accord. Et vous êtes le secrétaire général de l'AJST, Association des journalistes sportifs du Togo. On sait que cette association est en fait, l'association célèbre ses 50 ans. Et cette année, bien sûr, enfin c'est depuis l'année 2023, mais alors les festivités, c'est plutôt sur cette année. Déjà, quand on prend le bilan des 50 ans de l'association, qu'est-ce qu'on peut établir comme bilan?
C'est un bilan satisfaisant en dépit des difficultés qui demeurent, des challenges qui demeurent. Lorsque les pionniers avaient porté sur le fond baptismaux la GST le 1er mars 1973, feu Messan Niamey, feu Lawson Boivy, David Yabiakou, quand ils mettaient en place cette association, l'objectif, c'était de créer un cadre dans lequel la presse sportive pourrait s'épanouir. Et je crois que 50 ans plus tard, ce qui est important que nous retenons, c'est que le flambeau reste allumé. Et nous sommes conscients des challenges, c'est vrai, mais au quotidien, des hommes et des femmes se battent pour que la presse sportive au Togo soit une presse viable, responsable, et qui puisse pousser les sports et les médias vers le mieux-être et vers l'essor. Donc, le bilan, il est satisfaisant, non seulement parce que le flambeau reste allumé, mais aussi et surtout parce que les premières attributions statutaires de l'association, les bureaux qui se sont succédés, font tout pour que ces attributions statutaires-là soient respectées, c'est-à-dire offrir des fenêtres de formation, de recyclage aux membres, faire la assurer la diplomatie au plan interne, au plan international, et en un mot, faire de sorte que la GSC reste la pionnière, reste une association de premier plan qui œuvre au développement des sports, au mieux-être des journalistes qui la composent.
Alors, comment se porte aujourd'hui le journalisme sportif au Togo?
Il se porte autant que le journalisme généraliste ou bien le journalisme de spécialité. Les difficultés sont les mêmes, le manque de moyens, la précarité du point de vue des professionnels des médias, la difficulté ou bien les difficultés au plan des investissements. La presse de façon générale n'a pas de bailleurs, n'a pas de financier. Ceux qui ont de l'argent n'investissent pas dans la presse générale. C'est la situation est la même dans la presse sportive, où des hommes et des femmes se battent au quotidien, mais dans des conditions très 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 difficiles. Mais ce n'est pas pour autant que on va supposer ou bien on va croire que cette presse là elle est malade. C'est un problème, tout le monde les connaît, et nous travaillons au quotidien pour nous en guérir. Mais c'est une presse qui se bat, c'est une presse qui reste debout, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les challenges.
C'est une presse résiliente, telle que vous l'avez dit tout de suite. Alors, au-delà de tout, vous avez parlé aussi des challenges ou des défis à relever. Quels sont ces défis à relever aujourd'hui pour le journaliste sportif?
C'est d'abord la qualité. Aujourd'hui, nous avons la quantité, mais nous sommes conscients que nous devons travailler sur le plan de la qualité. Quand je parle de qualité, c'est d'abord le traitement de l'information, mais encore et surtout à la gestion, nous insistons sur un fait, c'est le challenge qui est devant nous, qui consiste à sortir des sentiers routiers, des sentiers battus du journalisme de reportage. Nous avons pris goût au reportage d'actualité. Aujourd'hui, c'est ouvert ici, on a joué tel match, c'est voici le score, celui-ci a dit ça, celui-ci a dit là. Mais je reste convaincu qu'il y a une autre façon de faire le journalisme sportif. Et sous l'impulsion de l'Association internationale de la presse sportive, dont la GST est membre, et il y a une formule choc qui dit que la presse qui transforme les vies. Et à la GST, le challenge principal pour nous aujourd'hui, c'est d'amener chacun des membres de la GST à comprendre ce défi-là et à travailler à le réaliser. C'est-à-dire faire de la presse sportive une presse qui transforme les vies. Une presse qui aborde des questions essentielles et lesquelles questions, lorsqu'on y apporte des réponses, des solutions, permettent à des individus, mais donnent à des individus, donnent à des groupes de personnes la possibilité ou bien l'occasion de sortir d'une situation embarrassante, l'occasion de trouver la lumière dans des situations qui restent des zones d'ombre pour elles. Le défi également au plan de la qualité, c'est la diversification. C'est la diversification du travail que nous faisons. J'ai parlé tout à l'heure des sentiers battus. Le défi, c'est d'aller vers une presse qui fait des enquêtes, vers une presse qui fait des dossiers.
Aussi, c'est avec les moyens, ça demande des moyens.
C'est un tout. Mais je crois qu'il y a des étapes. Sur l'échelle, il y a des étapes. Il y a des dossiers pour lesquels on n'a pas besoin de grands moyens. Quand vous voulez faire ressortir, par exemple, un athlète paralympique, vous voulez faire ressortir les difficultés dans lesquelles qu'il rencontre, vous voulez faire ressortir le contexte dans lequel il vit, malgré ce contexte, tout ce qu'il réalise, vous voulez faire ressortir comment le sport, par exemple, permet à un handicapé de se sentir fier de lui-même, d'avoir confiance en lui-même. A priori, pour cela, on n'a pas besoin de grands moyens pour faire de tels dossiers. Mais l'évidence dans notre presse sportive aujourd'hui, c'est que quand vous observez toutes les productions, il est rare de tomber sur des productions de ce genre. Or, ce sont ces productions-là qui transforment les vies. Parce que quand vous faites un document, par exemple, sur un athlète paralympique, et vous essayez de faire ressortir comment le sport lui permet, ou même lui a permis de gagner de la confiance en soi, d'être fier de lui-même malgré son handicap. Tous les autres handicapés qui vont lire ça, qui vont écouter ça, vont se dire, tiens, moi aussi je peux arriver, je peux faire ça. Moi aussi je peux avoir confiance en moi-même, malgré mon handicap. Bon, je crois que c'est un exemple palpable pour montrer qu'on peut ne pas avoir les grands moyens, mais on peut commencer à faire de la presse sportive qui transforme les vies.
Je parlais tout de suite alors des moyens. Et est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que le pouvoir public apporte le nécessaire également à ce journaliste sportif, alors pour que du moins ce travail de qualité dont vous voulez soit effectué?
Le soutien il est strictement institutionnel. strictement institutionnel. Le soutien financier, on en a pas. Le soutien moral, peut-être, mais je crois que ce dont la presse sportive a besoin davantage de la part du pouvoir public, et c'est valable pour la presse généraliste, les confrères qui sont ici ne me demanderont pas, c'est davantage d'accompagnement au plan technique, au plan des matériels, au plan de... comment on appelle ça, les directeurs de publication aussi savent plein de choses là-dessus. La question du traité de Florence. Aujourd'hui, dans la presse sportive, la presse papier est en train de disparaître presque. On est seulement à deux titres aujourd'hui, dans la presse sportive, l'équipe sportive, le mérite sportif. Tous les autres ont disparu, mais ont dû mettre le drapeau en berne. Or, l'une des raisons, c'est les coûts de production. C'est les coûts de production. Et quand j'évoque le traité de Florence, au plan institutionnel, c'est quelque chose que les pouvoirs publics peuvent faire pour aider la presse en général et la presse sportive en particulier. Je ne veux pas parler de l'aide de l'État à la presse, mais au plan des finances, il y a des formules qui existent pour que ceux qui ont de l'argent investissent dans la presse. Je crois que dans des pays comme les pays africains, la solution, c'est d'amener les riches à investir dans la presse. Il n'y a pas autre solution. Et dans d'autres pays, des confrères ont la chance d'avoir des hommes d'affaires qui créent des groupes de presse et qui mettent des sous dedans, beaucoup de sous. Les journalistes sont à l'aise. On ne leur demande que de faire du travail, de faire du professionnalisme. Nous ne sommes pas encore à cette échelle au Togo, mais peut-être parce que le cadre légal n'est pas créé pour que ceux qui ont de l'argent puissent investir dans la presse. Donc moi je crois qu'au niveau du pouvoir public, l'aide qu'on peut faire à la presse sportive, c'est de l'ordre du matériel, du traité de France, travailler sur le traité de France que le Togo a ratifié, mais qui peine à être mise en œuvre, et créer un cadre légal qui puisse inciter et encourager ceux qui ont de l'argent à investir dans les médias.
Quand on parle alors de fête, ça veut dire qu'il y a des activités à organiser. Alors concrètement, quelles sont les activités qui sont à l'ordre du jour pour ce 50e anniversaire de la JST?
Tout à fait. Notre association a été créée le 1er mars 1973, bien avant ma naissance. Donc je suis juste un héritier. On a repris le flambeau et l'année dernière, le 1er mars, on avait lancé les activités du cinquantenaire. On avait au programme beaucoup d'activités, mais cela dépendait des moyens financiers. On a pu faire certaines activités dans la mesure de la mesure de nos moyens financiers. On a fait un atelier de formation aux membres sur les genres d'opinion. Quand je parlais tout à l'heure de la nécessité de sortir des sentiers battus du reportage d'actualité, voilà aussi un aspect sur lequel nous mettons l'accent. Dans la presse sportive, les gens d'opinion sont presque absents. Vous allez voir dans la presse papier, vous verrez des rubriques consacrées aux gens d'opinion, des chroniques, des éditoriaux, mais tous les autres gens d'opinion dans la presse sportive, ça n'existe pas. Quand vous écoutez les radios qui font du sport, vous allez voir, il y a dans certains médias, vous allez écouter des billets, mais au-delà, vous allez voir la périodicité. Mais en termes d'expansion, c'est quelques rares confrères qui s'essayent. Donc cet atelier en avril 2023 avait pour but d'encourager les collègues à s'essayer aux gens d'opinion. En juillet, on a organisé le colloque international sur les sports et les femmes dans les sports et dans les médias, avec la présence des consorts du Sénégal et de la Côte d'Ivoire et des consorts d'ici, et dont Patricia Disseko, que je remercie au passage pour le soutien qu'elle avait apporté à l'occasion à la JST. Et depuis là, nous sommes engagés dans la réalisation de l'événement que nous présentons comme l'apothéose du cinquantenaire. C'est ce que nous avons appelé la nuit du mérite sportif. La nuit du mérite sportif qui est attendue le 7 septembre prochain à Lomé ici.
Le samedi
7 septembre à Lomé ici. C'est une soirée de récompense. Et la JSC estime que, en dépit des difficultés dans lesquelles les sportifs travaillent au Togo, en dépit des difficultés dans lesquelles les journalistes exercent leur métier au Togo, et beaucoup de gens font des efforts et il faut saluer ces efforts, il faut célébrer ces efforts. La nuit du mérite sportif est donc une soirée au cours de laquelle la JST veut récompenser les meilleurs athlètes, les meilleurs dirigeants, mais également les meilleurs journalistes qui dont les œuvres qui ont été soumises à un concours lancé en octobre 2023 auront été jugées comme les meilleures parmi toutes. Donc, en un mot, l'apothéose, la nuit du mérite sportif, ce sera une soirée de récompense où on va décerner les trophées du mérite sportif à différentes catégories. La catégorie des athlètes, le tableau hommes et femmes, la catégorie des athlètes, mais espoir, tableau hommes et femmes, la catégorie des dirigeants, c'est-à-dire les présidents de fédération qui se sont fait remarquer par les activités et les performances que les fédérations ont réalisées au cours de la saison 2022-2023. Et on va y ajouter principalement les awards, les trophées réservés aux journalistes dont les productions soumises au concours auront été jugées les meilleures parmi toutes.
Et ça va se passer où?
Ça va se passer dans la salle de spectacle de Canal Olympia à Blue Zone Cacavelli. Olympia Midin à Blue Zone Cacavelli,
voilà. Et c'est à partir de 20h.
C'est à partir à 20h, disons à 20h.
À 20h.
20h.
D'accord.
Le chrono est réglé pour 20h.
Tout à fait. Et donc, nous sommes tous invités, hein?
Tout à fait.
D'accord. Quand vous l'êtes, merci d'être passé alors dans cette émission. Vous pouvez rester avec nous. Le principe de l'émission, c'est que nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs déjà à partir de midi. Peut-être qu'ils auront des questions à vous poser. Et c'est pour cela même d'ailleurs que nous demandons que vous soyez avec nous pour répondre à ces questions. Vous le promettez?
Dans la mesure.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, chers confrères, nous revenons en studio alors pour parler des différents sujets hein, qui est de l'actualité et c'est ce sujet qui fait même la une des journaux. C'est depuis bien sûr hier mardi. Je veux bien parler alors de cet incendie hein, du marché de Kégué. Et Michel, vous en avez parlé, vous en avez fait quand même d'ailleurs dans votre journal et quand on prend ces marchés qui brûlent, ça doit nous interpeller.
Vraiment, on est fatigué de parler de ces incendies des marchés parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps à chaque fois le malheur nous court toujours derrière et ça fait mal d'en parler. La dernière fois, c'était la rapidité avec laquelle les services de sapeurs-pompiers vraiment réagi. Je pense que on devait encore aller à la vraie cata. Donc, pour le moment, on ne connaît pas véritablement les raisons qui ont conduit à ce drame. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait la énième fois que les Togolais vivent. Ça devient traumatisant aujourd'hui. À chaque fois qu'on parle des incendies des marchés, il y a vraiment, ça fait mal. Puisque ce matin même, je passais devant ce petit marché de Kégué, j'ai vu encore les forces de sécurité là-bas, et il n'y a pas très longtemps, c'était à Gouaï, passé, et vraiment ça fait mal que nos sœurs, nos femmes, je ne sais pas, que nos revendeuses, quand même, et nos revendeurs vivent des situations difficiles qui affectent aussi la population que nous sommes, parce que par ces temps où la vie vraiment n'est pas aussi tendre pour nous, parce que les denrées, les prix des denrées de première nécessité ne font que grimper. Et s'il y a une situation comme ça, qu'il faut quand même vivre, ça va créer encore d'autres problèmes supplémentaires. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, heureusement que la promptitude avec laquelle les services de sapeurs-pompiers ont réagi par rapport à cette situation, ça fait que ça a limité un peu les dégâts. Parce que quand vous lisez le papier, les dégâts, en tout cas le bilan provisoire des dégâts, c'est beaucoup limité. et vivement que les gouvernants puissent quand même prendre des dispositions pour soutenir ces femmes-là.
D'accord. Ok, merci beaucoup, Michel. Oui, Elon, c'est vrai que les femmes d'Agoué, assiégées, n'ont pas fini même d'ailleurs de pleurer les dégâts causés par cet incendie dans leur marché. Et finalement, c'est les femmes et les hommes, bien sûr, puisqu'il y a des revendeurs aussi, les femmes et les hommes du marché de Kégué qui subissent même le coup de cet incendie.
Oui, en fait, on ne comprend pas réellement ce qui se passe parce que, vous savez, on se rappelle qu'il y a cela quelques années, c'était les mosquées qui subissaient le même sort. À intervalles réguliers, à l'époque, on avait assisté à des incendies des mosquées, etc. Et on n'a jamais connu les causes de ces incendies. Actuellement, c'est le tour des marchés. Marché par ici brûlé, marché par là brûlé. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et puis, on ne nous donne pas d'arguments, en fait. Par exemple, quand je prends le cas des mosquées, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, on n'a jamais compris véritablement ce qui s'est passé pour que des mosquées soient incendiées comme ça, à tour de rôle à l'époque. Et maintenant, c'est les marchés, c'est l'épreuve du feu, on ne comprend pas.
Mais marché pour les marchés, on nous a donné quand même des raisons pour
Agoué,
certains.
Pour Agoué, on a dit, les coups circuits. Voilà, oui, mais aujourd'hui, pour Kégué, on attend toujours les causes de cet incendie. Mais toujours est-il que ça inquiète. C'est vraiment inquiétant dans la mesure où nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Et vous connaissez aujourd'hui, comme Michel l'a dit, les prix des denrées alimentaires sur le marché. Et actuellement, c'est un peu difficile, ou très difficile pour les compatriotes, parce que l'inflation, c'est vrai que sur le plan conjoncturel, ça baisse, mais aujourd'hui, du point de vue, sur le plan dans le panier de la ménagère, c'est quand même toujours d'actualité, parce que les coûts des produits de base sont chers, et vous avez aujourd'hui sur le marché des fournitures scolaires qui ont subi par rapport à la conjoncture, quelques prix qui sont un peu à la hausse, légèrement, et c'est un peu compliqué. Et quand vous regardez aussi la rentrée, l'horizon de la rentrée, et moi, quand j'ai suivi la vidéo avec les cris des commerçantes, etc., vraiment, c'est flippant, c'est touchant, c'est écœurant. Il va falloir qu'au niveau de l'État, on puisse davantage construire des marchés qui répondent aux normes. On a quand même aujourd'hui quelques marchés qui répondent aux normes au fur et à mesure qu'on se rapproche de certaines localités. Mais dans la capitale, c'est l'occasion de revoir tous les marchés, parce que je m'attendais à ce que, après justement l'épreuve du feu d'Agoué, au marché d'Agoué, qu'on puisse faire un inventaire de tous les marchés. Marché de Bé, marché de Hankopé, marché de Kégué, marché... Et puis on dit que par rapport à ce qui s'est passé à Agoué, court-circuit, etc., on ne voudrait pas que d'autres marchés soient concernés. Donc, on fait de la prévention. On fait quoi ? On fait un état des lieux. Au niveau de tels marchés, quel est le problème ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'électricité ? Faites-nous un audit pour qu'on puisse savoir si demain, quels sont les risques, s'il y a quelque chose qui se passe. Et est-ce qu'on a, par exemple, des bouches d'incendie ? C'est vrai qu'il faut saluer la promptitude avec laquelle les sapeurs-pompiers ont réagi. Mais il faut également rester dans la prévention. En faisant quoi ? Il faut prévoir. Il faut toujours prévenir. Enfin, quand je dis prévoir, je ne dis pas prévenir. Ça, c'est pas une maladie. Dans la prévision, voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Mais en mettant en place des bouches d'incendie, si ce n'est pas le cas, ou en discutant avec les sapeurs, les corps des sapeurs-pompiers pour voir ce qu'il faut dans l'urgence pour qu'il n'y ait pas, quand il y a de ces cas qui se produisent, qu'il n'y ait pas de grands dégâts avant que on puisse éteindre le feu. Mais encore une fois, il faut saluer l'intervention des sapeurs-pompiers et demander à l'État ou au gouvernement togolais, c'est vrai qu'ils ont dépêché 3 ministres sur les lieux, mais demander à ce que, au niveau de tous les marchés, un inventaire soit fait, et qu'on puisse éventuellement détecter ou déceler les failles en cas d'incendie, de risque de sinistre, et la capacité, la mesure de riposte. Je crois que ce travail doit être fait pour rester, justement, pour qu'on puisse travailler en amont, afin d'éviter d'autres éventuels cas qui pourraient se poser dans d'autres marchés.
Voilà. Alors, ce que évoque Elom, je pense que c'est très important, de telle enseigne que déjà, on a vu, nous avons perdu nos grands marchés du Togo, c'est-à-dire le grand marché de Lomé et le grand marché également de Kara. Mais finalement... Et par après, c'est les autres marchés qui sont là et qui brûlent. Mais finalement, on n'a rien fait comme inventaire et on attend jusqu'à ce que peut-être les autres aussi ne soient brûlés.
En fait, c'est Dieu qui a lâché vos gouvernants. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où on a comme l'impression qu'il n'y a pas un guide suprême qui éclaire ceux qui gouvernent. Ou soit le guide suprême, il est là, mais on ne l'écoute pas, on ne l'écoute plus. Et donc, quand vous n'écoutez pas le guide suprême, vous allez cogner chaque fois les murs. Et vous n'aurez même plus de cerveau pour réfléchir, pour la construction du pays que vous êtes censé gouverner. Tout simplement, ça répond à ce que l'homme a dit tout à l'heure. Un fait s'est produit en 2011. Et simultanément, le Meïkara. Depuis ce temps-là, vous imaginez que le Bénin a déjà construit, dans moins de 2 ans, 2 grands marchés. Accra, on a déjà construit 2 grands marchés. Ça fait depuis 2011, ça fait jusqu'en 2024, ça fait combien d'années? 13 ans. 13 ans. Le seul marché de Lomé à Dalato, le bâtiment là, on n'a pas encore construit pour livrer. Vous ne comprenez pas que les gens ne nous aiment pas dans ce pays? Ils ne nous aiment pas. La dernière fois, le marché de Aguassier a brûlé. Le marché d'Aguassier, ça fait combien d'hectares? Ça fait combien d'hectares? Je ne crois pas que ça dépasse 5 hectares. Mais jusqu'à présent, Lomé, c'est vrai, il y a un bâtiment là-bas. Rien. On nous avait dit en tout temps que le marché de Cara était déjà construit. Inauguré, je ne sais pas.
Inauguré, bien sûr.
Inauguré, d'accord. Alors que c'est, ça aussi, c'est un dépôt de mesure. Hein. C'est le marché de Lomé qui a brûlé avant celui de Cara.
Non, c'est l'inverse.
C'est Cara, c'est venu la première fois. Oui. Mais c'est dans l'espace d'une semaine, je crois.
Une journée.
Vous voyez ça. Et le pôle économique même du pays, c'est vrai, il y a Cara, mais plus il y a Lomé. Même quand vous allez à Cara, le marché de Ekitao, ça s'anime plus que le marché de Cara. Mais là, on n'a rien fait à Lomé. Parce que la théorie, en ce temps-là, on disait que c'est les opposants qui financent, c'est les dames du marché qui financent les opposants. Et même ceux-là qui sont décédés, plusieurs femmes sont décédées dans cette histoire. Ça, on ne le dit pas. Plusieurs femmes sont décédées. D'autres sont devenues aujourd'hui des hémiplégiques, d'autres sont devenues des gens d'AVC. Et l'argent qu'on a donné pour les indemniser, d'autres personnes se sont infiltrées sur la liste pour prendre cet argent-là. Vous avez appris ça? Ceux qui n'ont jamais vendu au marché là-bas, dont on n'a retrouvé aucun nom qui soit au marché là-bas, c'est eux qui sont venus prendre l'argent. Donc, pour vous dire que, moi, quand on pose cette question-là, ça me peine. Très souvent, je n'aime plus mettre mon monnaie dans cette histoire-là qui vous fasse dormir debout.
D'accord.
Mais je me dis, quand même, que c'est les Togolais qui sont concernés. Et ça, là, l'argent que les gens ont perdu dans cette histoire-là, c'est les microfinances qui ont le plus financé. La FISEC, je crois, en l'occurrence, a financé 90% des dames qui vendent à Gouet là-bas, si là-bas. Maintenant, on dirait aussi que c'est la même période, on va à la même heure que la chose se produit. Hein. C'est entre 1h10 du matin. C'est le même modus operandi qui se produit.
Ça veut dire que si c'est à partir de 20h.
À partir de 20h, c'est toujours la nuit.
C'est toujours
ça veut dire que c'est comme il y a des gens qui sont spécialisés dans ça.
Quoi, vous voulez dire qu'on peut avoir des causes criminelles?
Parce que nous ne sommes pas dans une période de chaleur. Comme ça se passe, la canicule se passe en Europe. C'est en période, en janvier, février. Ça se passe, on dirait que c'est à cause de ça que ça a brûlé. Non, non, non. Ici, il y a une fraîcheur qui ne dit pas ça. C'est vrai que la fraîcheur est en train de disparaître. Mais on ne peut pas dire que c'est encore. Et comment, il avait dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait brûlé? C'est les culs, c'est cuit ou c'est les gaz? Bon, est-il dit que le marché a brûlé?
Ok, ouais,
c'est. Nous, on veut que ces marchés qui sont allumés. Et ça pénalise, le marché qui a brûlé pénalise la commune là, qui est dans la zone. Ça aussi, on oublie cet aspect là. Ce qui a brûlé à Aguassier, c'est la commune à de la
bas. Un qui
va en partir. Déjà, il faut que l'on veille encore sur le marché d'Adalato et de Djelaoué. Parce qu'il faut que nous on le dise. Elle m'a dit tout à l'heure, pourquoi on ne fait pas un audit? Pourquoi on ne fait pas un inventaire de tout ce qui est électricité? Tout ce qui est tout là-bas.
D'accord.
Là où on entrepose les gaz, tout ça là. Demain, on viendra encore nous dire, après un moment, on dira que les marchés là, deux marchés ont encore brûlé.
Merci beaucoup, Ambroise. Oui, mais Magloa, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important de prendre plutôt alors des mesures ou des dispositions pour que du moins nous n'assistons plus à ces incendies des marchés?
Non, je crois que c'est l'approche qui s'impose aujourd'hui. Vous avez vu le développement fait par mes prédécesseurs. Ils ont juste marché sur ma langue. Parce qu'en réalité, il y a un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. Il ne sert à rien d'être là, de constater, de rendre visite aux sinistrés. Et puis basta. On remet tout sur la prochaine édition, si je peux le dire ainsi. mais on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter tous ces scénarios. Et c'est ça qui m'attriste moi personnellement. Nous étions là, quand on nous avait parlé, enfin, quand avait survenu l'incendie des deux grands marchés, Kara et Lomé, à l'époque, on nous avait parlé justement d'une cause criminelle, si je ne me trompe pas. Mais et après, ce qui en est advenu par la suite, on n'est plus au courant. Maintenant, c'est vrai que à un moment donné, ça se multiplie. C'est aussi, ça peut être naturel, ok? Ça peut être naturel. Mais alors, posons-nous les bonnes questions. C'est vrai, d'un côté, il y a les plus superstitieux qui parlent peut-être de l'esprit de feu, ça j'en sais rien. Mais, si nous voulons raisonner, si nous voulons être pragmatiques, posons-nous les bonnes questions pour entrevoir les bonnes résolutions. Il n'y a pas longtemps, on nous a parlé du marché d'Aguiasiéyé. On nous a dit que c'est un court-circuit qui s'est produit, qui a conduit justement à l'incendie. Ok, d'accord. Du moment où on sait, et c'est ce que les confrères essayent de dire, du moment où on sait que tous les marchés sont régis justement par une structure, mais qu'est-ce qui se fait justement à ce niveau pour éviter de telles situations? Ce que moi je sais par exemple, c'est qu'il y a une certaine lassitude, on donne une certaine ouverture, n'est-ce pas, aux commerçants d'installer par exemple l'installation électrique, on leur donne cette latitude, chacun se débrouille, il appelle un cousin du quartier ou un débrouillard quelque part de venir lui installer. Alors que quand on le fait comme ça de façon anarchique, ne nous étonnons pas que ça crée des dommages après. Et donc je me dis aujourd'hui, on a bien fait d'avoir une structure légale, officielle, qui gère les marchés au Togo. Mais si tel est le cas une fois, deux fois, trois fois, mais posons, en tout cas, marquons une petite pause pour essayer de diagnostiquer un peu ce qui se fait de Lomé jusqu'à Dapaon. Comment est-ce qu'on gère l'électricité, par exemple? Est-ce que dès que survient une panne, est-ce que c'est du ressort de chaque commerçant, n'est-ce pas, d'aller chercher un électricien, justement, pour procéder au dépannage? Mais si tel est le cas, c'est que ben, on est encore très loin du bout. On va, je ne le souhaite pas, mais si on agit comme ça, c'est-à-dire que dès que ça survient, on donne la pleine latitude à n'importe qui d'agir, c'est que ben, on est encore très loin de la réalité. C'est pour ça que je dis, au-delà de tout, c'est beau de rendre visite aux gens, c'est beau de les calmer, de leur adresser des mots doux, mais et après, à la fin, ça ressemble à du sketch. Et je parie que ceux-là qui sont les vraies victimes, il y a parfois certains qui décèdent dans ces situations parce que c'est d'énormes sacrifices que les gens mettent dedans et qui sont bousillés en l'espace de quelques secondes. Mais est-ce qu'on va rester là à suivre ces feuilletons assez cyniques et ne rien faire? Pour moi, la solution, ce n'est pas de former une équipe gouvernementale et descendre sur le terrain pour présenter les condoléances, enfin, les compassions, justement, oui, du gouvernement aux sinistrés, mais c'est de s'arrêter tant soit peu, se poser les bonnes questions et prendre les vraies mesures d'accord. pour inviter...
Merci, Nabla. Oui, Michel.
Oui, les vraies mesures, voilà, il a fait une bonne chute. Les vraies mesures, c'est de ça qu'il est question. Comment éviter? C'est vrai que on n'est jamais dans les secrets de Dieu, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais sur le plan technique, par rapport à ce que nous connaissons, par rapport aux problèmes que nous avons vécu de par le passé, il va falloir prendre des dispositions par rapport à tous les marchés sur toute l'étendue du territoire national. Il va falloir vraiment, comment l'appelle-t-on là, avoir une observation stricte par rapport à ce qui se fait dans ces marchés-là, pour éviter, parce que juste après l'incendie, quand on dit tel est venu voir les sinistrés, oui, on est venu les voir, oui, la prochaine fois que tel est venu les voir, même les partis politiques,
les députés,
bon, moi ça ne m'intéresse pas, moi c'est comment éviter que cela arrive, c'est de ça qu'il est question. Et puis, on nous avait dit, par rapport au marché d'Aguenivé, qu'il y avait une enquête préliminaire. En tout cas, qu'une enquête préliminaire a été faite et les résultats ont été publiés, si vous vous rappelez. Oui. Maintenant, l'enquête définitive, c'est comment? Parce qu'il faut, oui.
Puisque si le peuple
il faut lui donner. Oui, il faut nous donner. L'enquête est définitive. Parce que par rapport au marché de Kara, de Lomé, les marchés de d'où encore là, on ne sait pas de quoi l'est. Mais pour le marché d'Agoy-Assier, j'ai vu que dans les prochaines heures, en tout cas les heures qui ont suivi l'incendie, on a publié les résultats de l'enquête préliminaire. Ok. Mais on veut, les Togolais veulent voir l'enquête définitive, ou bien combien d'années ça prend. Je ne sais pas.
D'accord. Peut-être ouais. Là, je pense quand même que la police est interpellée
oui, sur cette affaire. C'est bien pour, de connaître
voilà.
Pour que tout le monde, parce qu'on appelle tous les Togolais à la vigilance.
D'accord.
Il faut comprendre pour pouvoir se préparer pour demain.
D'accord. C'est de ça qu'il est question. Justement, c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr, qu'il est question. Alors, Hélène, nous allons nous intéresser à notre sujet. Intéressons-nous à ce voyage alors du président de la République en Chine hein, pour ce forum FOCAC, FOCAC 2024. Et des journaux sont revenus là-dessus. Il y a d'abord Flambeau des démocrates hein, qui est revenu sur le sujet. Flambeau qui titre FOCAC 2024, perspectives d'avenir partagées. Alors, le journal Le Dialogue aussi est revenu sur le sujet. Renforcement de la coopération entre le Togo et la Chine. Les efforts de Fornia Simbe salués au FOCAC 2024. Michel, vous êtes aussi revenu sur le sujet. Vous écrivez Fornia Simbe au FOCAC 2024. Le Togo, un partenaire privilégié de la Chine. Alors, quand on prend tous ces titres, on voit tout simplement avec ce fait ou ce voyage alors du président de la République en Chine, ça veut dire tout simplement que on aura encore un autre partenariat ou d'autres partenariats, j'allais dire, surtout sur le plan économique avec la Chine.
Oui, vous savez que la Chine est un partenaire très important pour l'Afrique en général et le Togo aussi en particulier parce que les Chinois ont fait pas mal de réalisations ici. Quand vous prenez le siège de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est quand même une œuvre de la Chine. Vous avez pas mal de bâtiments aujourd'hui au Togo qui relèvent de ce partenariat entre le Togo et la Chine. Un partenariat vital parce que la Chine est présente, comme je l'ai dit, en Afrique d'abord, parce que l'offensive chinoise en Afrique est très importante, il faut le rappeler. Et aussi au Togo, parce que à part les infrastructures, vous avez des routes, vous avez des bâtiments, les BTP, vous avez d'autres domaines dans lesquels la Chine est présente dans notre pays. Et aujourd'hui, ce forum entre la Chine et les dirigeants du monde, notamment des dirigeants africains, dont le président togolais, témoigne à suffisance que la Chine veut passer à une autre étape de ce partenariat avec l'Afrique et surtout le Togo. Et donc on attend vivement les retombées de ce forum parce qu'on a vu à travers des images la signature de certains partenariats qui ont débuté. Donc on attend de voir la restitution justement des signatures de conventions qui ont eu lieu parce qu'on a vu le président togolais qui a quand même échangé avec pas mal de représentants de l'État chinois et de la République populaire de Chine plutôt. Donc c'est l'occasion peut-être d'attendre parce que les défis aujourd'hui au Togo sont pluriels, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit en matière de transport et en matière de lutte contre la pauvreté. Et donc il faut aujourd'hui essayer de pouvoir mettre tout cela ensemble et aussi en matière d'agriculture. Vous savez qu'aujourd'hui au niveau du Togo, selon une étude qui a été faite, vous avez par exemple un domaine comme l'agriculture où il a été identifié des chaînes de valeur qui sont inexploitées. Et donc il a été recommandé par des institutions de pouvoir faire quoi ? De pouvoir lutter contre le chômage et le sous-emploi au niveau de la jeunesse à travers la mise en valeur d'au moins 12 chaînes de valeurs agricoles. Et donc, je ne vais pas m'amuser à citer toutes ces 12 chaînes de valeurs agricoles, mais toujours est-il que l'étude a démontré que le potentiel agricole du Togo est sous-développé. Et il y a de cela quelques années, on a vu qu'il y a davantage de ressources qui ont été allouées au ministère de l'Agriculture, mais depuis quelques années, les priorités ont changé à cause de la menace sécuritaire, ce qui est normal, à cause de du Covid aussi. Et le ministère de l'Agriculture, qui était dans les trois premiers budgets de l'État, est passé justement derrière. Et dans les trois premiers budgets, aujourd'hui, vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez l'armement, à cause de la menace sécuritaire. Et ça fait que l'agriculture, aujourd'hui, on a beaucoup de défis. Et donc, alors que c'est le principal secteur qui occupe la majorité de la population togolaise, c'est l'activité principale. C'est pas moi qui le dis,
C'est les études qui le démontrent. Quand vous venez au Togo, c'est l'agriculture qui occupe la grande partie. Donc, cette année, il n'a pas plu. On est confronté à des problèmes d'irrigation. Vous savez, je ne sais pas si des gens ont mangé foufou la dernière fois que les gens mangeaient foufou, mais l'igname coûte aujourd'hui sur le marché parce qu'il n'a pas plu. Et aujourd'hui, pour avoir un tubercule d'igname, vous devez dépenser énormément parce que le foufou, maintenant, c'est un luxe. Vous comprenez? Donc, comme les prévisions météo ont été capricieuses cette année, il n'y a pas plu. Donc, au niveau de l'agriculture, c'est compliqué. Il va falloir qu'au niveau de ce sommet, parce que la Chine est une puissance aujourd'hui qui s'intéresse aux questions agricoles, à part les questions d'industrie, d'énergie et les questions humaines. Donc, il va falloir qu'on puisse aussi regarder ce côté pour qu'on puisse tirer grande partie ou meilleur bénéfice de ces voyages.
D'accord.
Donc, merci. C'est l'occasion aujourd'hui aussi de faire peut-être d'autres recommandations ou de s'attendre aussi à ce qu'on puisse avoir une meilleure restitution de ce qui a été fait comme activité, de ce qui a été dit, de ce qui a été signé comme convention. Parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs chefs d'État africains qui y sont. Et donc, nous attendons vivement au niveau du Togo les retombées.
Ambassadeur, est-ce que vous avez l'impression que le Togo profite au maximum de ce partenariat avec la Chine?
Je ne saurais le dire, d'autant plus que le partenariat avec la Chine est plus axé sur la construction des infrastructures, des ouvrages, de grands ouvrages. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire, les échangeurs qui sont là, et tout ce qui se passe, c'est la Chine qui est derrière. Au Togo, est-ce qu'on a un grand ouvrage? C'est-à-dire qu'à part le pont d'Abakpapé, le pont d'Agoué, qu'on appelle échangeur, communément échangeur, bon, le terrain de Kégué, peut-être, mais on n'a pas grand-chose.
Que font la présidence, l'Assemblée nationale?
S'il s'agit de lui, demande aux Chinois de venir nous construire un chemin de fer là. Les Togolais aussi ont besoin d'un chemin de fer là. Vous voyez, tous les produits vivriers que nous avons dans les fermes, qui sont difficilement transportables à Lomé, mais avec le chemin de fer de Lomé à Saint-Cassé, mais mon ami, ça dit qu'on est, c'est fini. Les gens n'ont plus besoin de mourir en cours de chemin. Chemin de fer ne tombe pas comme ça, comme une mouche, comme des véhicules. Hein. Comme ça se passe, les DG sont décédés, tout ça là. Chemin de fer, ça transporte bagages et marchandises. Ne serait-ce que, pas celui d'Atikoumé, ce que vous voyez, Atikoumé là, avec des tonnes de méthane, de fumée, tout ça là. Non. On parle de chemin de fer moderne, de nommer à Saint-Cassé. Demandez aux Chinois de nous le faire. Construisez-nous au moins deux grands stades. Ne serait-ce qu'à Sokolé et Indépendant Ouakara. Il y a plein de choses. Échangez à Atikoumé. Faites-nous. Changer à Tikoumé, mais c'est quelque chose de visible, qu'on puisse savoir que la Chine a fait quelque chose. La Chine va encore, vous savez, mais ce partenariat avec la Chine, moi, c'est encore une cumulation de dettes que l'on va payer. Toi et moi, on va payer, nos enfants vont payer. Mais ne serait-ce que, depuis que le Togo est entré en collaboration, en relation avec la Chine depuis 60 ans, mais qu'est-ce qu'on a gagné comme la Côte d'Ivoire le montre aujourd'hui, l'Afrique du Sud? Non, moi, je préfère parler du gaz qui coûte très cher actuellement au Togo, qui est à la manchette de mon journal, le gaz qui est à 10 000, que de parler de la Chine, parce qu'on ne voit rien. Ils n'ont qu'à vous diminuer le gaz au moins. En attendant que le chemin de fer arrive, diminuez-nous le prix du gaz, qui est à 10 000, au lieu de 6 500 francs. La bouteille est 12,50.
D'accord. Alors, oui, Magloire, il serait qu'il y a ce partenariat de la Chine avec toute l'Afrique, hein, c'est avec tout un continent, bien sûr, et des pays se bousculent aujourd'hui à aller vers la Chine, et ça veut dire qu'on a quelque chose à gagner.
Oui, a priori, parce que, justement, on parle d'avenir partagé. Et pour moi, ça résume un peu la philosophie derrière cette rencontre entre la Chine et l'Afrique. C'est pas une mauvaise chose. Et comme j'aime le dire, aucun État ne saurait vivre en autarcie. Ça, jamais. Il faut s'ouvrir sur le monde. Mais la réalité, c'est que comment est-ce que vous vous vendez sur le marché international? Parce que, quoi qu'on dise, je serais très ravi en tant qu'Africain de savoir que, par exemple, mon pays, le Togo, qui est présent à cette rencontre, puisse ramener des choses qui vont bénéficier directement aux citoyens à la base. Et ça, je dirais que voilà ce que nous avons ou ce que nous voulons pour notre développement. Mais au même moment, en tant qu'Africain, c'est que je suis un peu peiné de voir que tout le temps, c'est tout le continent africain qui se transporte dans un pays. Aujourd'hui, on parle de Foucault. Demain, ça va être Ticade, parce avec le Japon.
Avec le Japon.
Et ça se fait. Mm. Il y a la Turquie, il y a l'Inde.
Il y a la Russie.
Il y a la Russie. Mais jusqu'à quand nous, on va inviter le monde pour que les gens viennent chez nous ici, parce que nous aussi, on a des richesses à vendre au monde. Jusqu'à quand? Je me pose la question. Est-ce qu'on va à ces conférences internationales juste dans la posture de commandeur? Je me pose la question. Parce que la réalité, c'est que je crois fondamentalement que le continent africain n'est pas si pauvre qu'on le pense. Mais alors, si, en respect justement à cette philosophie qui voudrait qu'on s'ouvre sur le monde et qu'on ait un développement partagé, mais il va falloir qu'on sache et négocier justement ces partenariats avec les puissances occidentales.
Mmh, d'accord.
Parce que là, on va faire les allers-retours. Mais si à la fin, on continue toujours pas demander, c'est soit on négocie mal, ou alors les autres ne nous prennent pas au sérieux. Si on ne nous prend pas au sérieux, ça voudrait dire qu'en réalité, c'est nous notre propre problème. Donc moi, je ne suis pas contre ces rencontres. Mais encore que ça soit vraiment bénéfique pour nos populations.
D'accord, merci beaucoup Mangla. Oui Michel, alors concrètement, qu'est-ce que le Togolais doit s'attendre alors de ce forum avec la Chine?
Mais je pense que, et l'homme l'a dit, il y a beaucoup de choses, notamment l'agriculture. Vous savez, les secteurs, on a parlé de l'économie, la santé, l'agriculture, la connectivité et tout ça là. Quand vous voyez la position de la Chine aujourd'hui sur le plan international, c'est vrai que c'est sûr que le Togo, et surtout que cette fois-ci, la Chine a décidé de construire une stratégie de partenariat global. C'est le plus haut niveau de coopération dans l'échelle chinoise. C'est pourquoi nous l'avons titré aujourd'hui. Le Togo, c'est un partenaire privilégié, l'un des partenaires privilégiés de la Chine aujourd'hui. Et les actions de la Chine au Togo dans le cadre de la coopération sont visibles. Et l'homme citait, je ne sais pas qui citait ici, les deux, qu'on parlait des congrès au Togo, le stade de Kégé,
la présidence
et l'Assemblée nationale. Le riz de Danier, je dis, sucrerie Danier au bord de la route là. C'est les Chinois. Ils sont partout. Il y a des choses très concrètes que les Togolais peuvent voir dans la coopération avec la Chine. Et puis surtout, il y a un aspect au niveau de la diplomatie, c'est la Chine, c'est une coopération de respect mutuel, contrairement aux autres puissances qui viennent en position de donneur de leçons. La Chine est un pays qui respecte ses partenaires, notamment le Togo.
D'accord.
Donc, ça là, ça prouve que si, dans la nouvelle dimension que le Togo est rentré dans son partenariat avec la Chine, si tout est mis en œuvre, je pense que les retombées vont s'améliorer et les Togolais verront. Vous l'avez dit au retour, c'est sûr qu'il y aura... Comment l'appelle-t-on ?
Une restitution.
Et vous allez voir, nous, nous traitons le sujet à distance. Oui, nous ne sommes pas là-bas. Mais c'est sûr que ceux qui sont sur le
terrain... Mais pour faire une bonne restitution, il faudrait quand même que nous aussi nous participions. C'est important. Alors oui, et là, vous voulez ajouter quelque chose rapidement
il y a un sujet d'envoi, ce qui m'a interpellé, c'est par rapport au gaz butane. En fait, mon mémoire de master a porté sur son affaire. Mm. C'est la communication publique sur l'évolution des prix des produits énergétiques à du gaz butane au Togo. Mais en fait, c'est pas un mécanisme simple, en fait. Je comprends aussi ce qu'il dit, parce que quand le gaz finit à la maison, c'est pas maman qui va l'acheter. Elle dépose juste la bouteille. C'est nous qui allons chercher. En réalité, c'est ce qu'elle fait en réalité, que bon, quand on prend du gaz, oui, c'est vrai, les prix ont évolué. Mais les prix, il faut reconnaître que c'est à trois niveaux. Il y a l'achat direct, il y a le transvase, la transvase, comme on le fait direct, et puis il y a la consignation. Les prix dont il parle, il va falloir qu'on voit si c'est les prix à l'achat direct, en termes d'achat de bouteilles de gaz, en termes de transvase, c'est-à-dire des gens qui déposent la bouteille, qui disent, bon, il faut transvaser, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'on change la bouteille, mais il faut juste communiquer les deux pour que je puisse acheter le plein. Et la consignation, c'est-à-dire, vous déposez, vous prenez une autre bouteille. Voilà. Donc, les prix varient sur ces trois niveaux. Maintenant, sur la subvention de l'État. Je pense que c'est un débat qui ne va pas se faire en une, deux minutes.
Ça, je suis d'accord.
Sur la subvention de l'État, il y a la question aussi du déboisement qui se pose. Et il y a également une autre question qu'il va falloir voir aussi, c'est l'utilisation du gaz butane par les ménages. Vous savez, au fur et à mesure qu'on va vers le nord, les Togolais qui utilisent le gaz butane, on les cherche. Vous comprenez ? Dans la capitale, oui, il y en a beaucoup, mais au fur et à mesure qu'on s'approche du nord, il y a quand même moins de Togolais qui utilisent le gaz butane.
On va revenir sur le sujet.
Non, c'est important. C'est très important ce que je dis. Maintenant, oui, ce qu'il dit, c'est important.
Applique ça sur tous ces prix.
Maintenant, quand vous regardez dans les pays voisins, vous regardez, vous allez voir qu'au Bénin, par exemple, les prix ont évolué aussi. À un moment, les prix ont évolué. On nous a parlé du Covid, des difficultés d'approvisionnement. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Mais il va falloir justement aussi voir du côté des autres pays, parce qu'au Togo, on a un leader sur le marché, un leader qui s'impose, que vous connaissez tous, c'est Zener. C'est chez lui que les autres viennent s'approvisionner, parce qu'il faut aussi voir combien d'opérateurs économiques vendent du gaz sur le marché. Le seul qui a la plus grande part de marché, c'est Zener. Ensuite, il y a Total Energy, que vous avez. Il y a également Sanol, qui fait du gaz butane, et maintenant T-Oil, qui est venu s'agripper à la chaîne. Vous comprenez? Mais eux tous... Ils s'approvisionnent d'une manière ou d'une autre chez le client principal.
On va revenir avec assez de temps que nous avons consacré même d'ailleurs au sujet. Il n'y a pas pu sur notre temps pratiquement parti. Donc rapidement, j'avais voulu même d'ailleurs qu'on parle alors de ce sujet que Ambroise a évoqué alors à son par rapport même d'ailleurs à la mise en prison alors et sous mandat alors d'arrêt international. Fait peur, mais on va revenir aussi par rapport à sur le sujet.
Non. Faire peur là.
Oui.
Il faut qu'on en parle aussi.
Bon, rapidement, quelque chose, oui.
Vous allez voir à la une de mon journal, Ferdinand Haïté, il y a Jean-Paul Omolou, il y a commandant Olivier Ama et dame Françoise Agba. Tous ces gens-là, il y a deux qui sont en prison, deux qui sont en Europe, mais qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il y a Matt Fahri qui a été interpellé la dernière fois. Ça, on a dit dans l'article, mais là, on ne peut pas mettre toutes les photos à la une. Il y a deux TikTokers, les jeunes élèves, qui ont été aussi emprisonnés et libérés. Il y a l'autre là, Rodrigo Aigo, qui a été pris vendredi, je crois. Hein,
et libéré.
Libéré aussi. Ça, c'est à saluer. Mais est-ce qu'on est obligé de rester dans ce schéma de statu quo là? Chaque fois, réprimé, arrêté, emprisonné. Non, je crois qu'il faut quitter ça. Donc, le tour fait peur. Ce qui fait que beaucoup de gens quittent. C'est ça quitter quoi? Si des Togolais, je dis que sur les 8 millions, on leur donne le visa tout à l'heure, aller aux États-Unis, tous vont quitter le Togo. Et le Togo va rester comme ça. Nous, on ne veut pas quitter le Togo. C'est notre patrie à tous. Donc, il faut que nos autorités fassent en sorte que les gens soient en sécurité. S'il y a un problème, réglons ça entre nous quoi. Pour pas qu'à chaque fois, on prenne une voiture du Nigeria pour aller prendre des gens dans une station pour l'amener quelque part. Il faut éviter ça. Moi, ça fait peur. Ce qui m'a inspiré cet article, c'est un monsieur qui m'a appelé un matin, qui me dit, mon frère, le Togo fait peur. Qu'il a peur du Togo. Qu'il ne se mette pas dans la politique, mais il a peur.
D'accord. Ok, nous allons... je pense que le temps est pratiquement... le temps qui nous est accordé est pratiquement à sa fin, par rapport même d'ailleurs au sujet, au débat. Et nous reviendrons sur des sujets alors de gaz, le jeudi prochain, bien sûr. Je sais que Ambroise sait bien le faire. On va revenir alors sur le sujet. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'homme. Et c'est surtout que la façon de moi...
Ambroise a fait un article
aussi, c'est pour ça. Mais, oui, justement. Même Michel aussi est très intéressé par le sujet, puisque c'est un sujet qui touche même d'ailleurs le quotidien des Togolais. Oui, je vous comprends. Je vous comprends.
C'est très important.
Justement, on va revenir sur le sujet. Je vous le promets. On va revenir sur le sujet. Alors, merci beaucoup. Maintenant, je pense que les auditeurs s'impatientent à entrer aussi en ligne. Nous allons faire un clin d'œil, pardon, à nos annonceurs. Juste après, nous donnons la parole à nos auditeurs. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous, mais avant de recevoir vos appels, je vous livre cette information. Il y a eu un feu de bateau au quai minéralier du port autonome de Lomé ce matin et l'heure, c'est bien sûr à partir de 9h46 minutes et l'heure d'arrivée alors des sapeurs-pompiers, c'est à 10h05 minutes et le feu a été maîtrisé à 10h31 minutes et ce feu a été maîtrisé par les pompiers du port autonome de Lomé, de la SECNA et du CSP. Et le bilan provisoire fait état de... Enfin, il n'y a pas alors de victimes pour le moment, mais il y a 4 petits bateaux brûlés au port autonome de Lomé. Alors, je vous reçois déjà en ligne à travers nos deux numéros. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado, comment vous allez?
Oui, ça va très bien.
D'accord, allez-y.
Mais vous savez, c'est pas même l'ignorant qui concerne, même le manioc. Ça a augmenté. Je ne sais pas comment nos autorités font. Quand il y a des médecins là, ce n'est pas les mêmes terres. On ne peut pas cultiver. Mais c'est honte. Après, on crée des postes, on crée des postes, on crée des postes. Je voulais dire en bref que, en passant, j'ai vu une voiture avec matriculation de chiffre. Hein. Je ne sais pas s'il va descendre. Merci, bonne journée.
Allez, bonne journée à toi, monsieur Gado, pour votre. Merci pour votre intervention. Allô? Oui, Basile, bonjour. Comment tu vas? D'accord.
Bon, le gaz, pourquoi d'autres passent par quatre chemins pour dire ce qu'ils doivent dire à propos du gaz? Le gaz coûte extrêmement cher. Puisqu'il s'agit de ça, moi aussi je ne vais que parler de ça. Vous savez qu'ici au Togo, après qu'ils ont accaparé des ressources minières, il faut saigner la population aussi. En vendant tout cher au Togolais pour les rendre pauvres. Vous voyez ça? Le gaz à côté au Burkina, on parle de 2000. Pourquoi on va faire des contorsions en disant qu'il y a 4 niveaux, 5 niveaux? Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Le gaz est coûté très cher. Le 6 kg à 5 000. Le 12 kg vers 11 000. C'est trop cher. C'est ça on dit. Il n'y a pas à passer par combien? C'est moi qui ne vois pas bien.
Non, c'est des explications que le confrère aussi donne. D'accord. Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention, pour avoir donné votre avis. Allez.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
C'est Karim, le taxi-vent.
Ah, Karim?
Oui.
Mais ça fait longtemps.
Ah, vous savez, dans quel pays qu'on est, pas on a envie de parler, mais...
Allez-y.
C'est pas le fait, tu vas te retrouver en prison.
Allez-y, mais je pense que vous avez toujours parlé.
Le pays fait peur.
Vous avez toujours parlé sans être inquiété.
C'est pas quelque chose qu'on doit dire là.
D'accord, vas-y maintenant.
Vous savez que on est dans un pays. S'il y a quelque chose, si tu as envie de le dire, tu as peur. C'est pire. C'est la maison ou bien c'est la présence qui est là-bas juste à côté. Le feu rouge de Sepia ne travaille pas, ça fait à peu près 3 mois, 4 mois.
Il n'y a pas que pour GTA, Karim.
Oui, pour GTA.
Oui, mais même à Décon, tout près de nous ici, je pense quand même que nous avons interpellé.
Oui. La voix du le président de la République. Mm. Plus de 4 mois que le feu rouge ne fonctionne pas. Et on est dans ce pays normal. Et c'est eux qui prennent leur pick-up, leur 4x4, ils passent là-bas. Personne ne peut dire allô, monsieur le maire, venez arranger ce feu rouge. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Et c'est des accidents. C'était hier seulement. Il y a un accident qui s'est passé là-bas. Parce que le feu rouge ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Ce petit pays. Et la deuxième chose. L'État togolais nous a dit d'avoir nos permis. Maintenant, je vais dépasser mon argent. Avoir mon permis. Quand l'attestation sort, on te dit qu'il faut aller à la poste. Aller payer 1000 francs. Avant de retirer l'attestation. Mais pourquoi? On a besoin de passer. On a passé nos examens. Quand le permis définitif, le permis sort, on a quand nous donne, on a besoin d'aller à la poste encore payer 1000 francs avant de le prendre. Hier, je suis parti à la poste pour payer 1000 francs avant de prendre mon permis D. Pourquoi? Quel argent cherche comme ça dans ce pays? On est tous des Togolais. Aidez-nous un peu. On a la carte d'identité togolais. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, Karine, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, madame ici.
Bonjour à tout le monde, à tous les journalistes togolais. Bon, Pascal, on nous a laissé dans ce truc, dans ça là, sans travail. On va se réunir au téléphone pendant que les gens cumulent, le gouvernement cumule et tout. Et puis on est là-dedans. Moi, qu'est-ce que je vais proposer? Je vais, moi, maintenant, je vais commencer par faire des propositions.
D'accord.
Maintenant, on n'a qu'à alterner un peu pour voir. Moi, j'ai dit...
Non, mais c'est une proposition que vous avez toujours faite. Hein.
Pardon?
Oui, c'est une proposition que vous avez toujours faite.
Oui. Donc, moi, j'ai dit, il n'a qu'à partir un peu pour voir. Si on ne va pas acheter le gaz de... Comment on appelle ça? 5 kilos, je crois, non? À 1500 francs. Et le 12 kilos... à 4500, même s'il faut, et puis le maïs à 300 francs, l'essence 250, 300 francs le litre, et la tonne de ciment que moi je produis, je produis tout, on me facture ça à 81 000, au lieu de 25 à 30 000 maximum la tonne. Il n'a qu'à partir un peu pour voir. Pourquoi il refuse? Il le refuse notamment. C'est pour ça, il faut affirmer tous les 5 ans, les blancs, on est des humains. Quand ils dépassent un mandat là, ça devient comme ça. Le pays brûle, tout brûle, les bateaux, les marchés, tout ça là. C'est pas bon. On a qu'à affirmer la semaine prochaine, mais moi je pars à la messe tous les dimanches, je demande au Saint-Sacrement de leur faire le cœur pour qu'ils passent la main la semaine qui vient. Et ça va se faire.
D'accord, merci pour votre intervention, madame ici. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô, Canal FM?
Oui, bonjour, je vous écoute. Allô?
Allô?
Décidément, il n'a pas de retour. Michel, on va se passer alors de cet auditeur et recevoir notre auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, merci pour l'émission. Vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé des Hyperville qui jouent pour leur premier match pour la 5e République le vendredi.
Mais tout à fait, nous avons encore avec la journée. Nous avons encore la journée de demain pour en parler.
Nouvel entraîneur.
Oui, nous avons encore la journée de demain pour en parler.
Donc, la nomination a fait polémique. Il fallait qu'on en parle. Quelles sont les chances de qualification?
Oui, nous aurons.
Les chances de qualification se mesurent à quel prix? Avec tout ce qui a tourné autour, il fallait qu'on en parle. Dans tous les cas, je souhaite bonne chance à cette nouvelle équipe, essentiellement composée de beaucoup de rapatriés. On va voir ce premier challenge. C'est un défi à relever pour les Bombay Dare et son staff. Bonne chance. Merci aussi à vous pour les analyses. Et un coucou spécial à mon frère et ami Michel Chadia. Je saute 2-0 pour le Togo pour ce match de vendredi.
D'accord. Merci beaucoup, allô, mon cher ami. Je pense que ça l'intéresse beaucoup, justement, le football.
Allô?
Et ça nous intéresse aussi. Et nous avons notre dernier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, allô, bonjour. Allô?
Allô?
Bonjour.
Allô? S'il te plaît, 2 secondes. 2 secondes. Tu sais quoi? Il y avait un monsieur à côté qui passait sur le bala il y a une dizaine d'années. Qui nous disait qu'il allait nous produire de l'électricité gratuite. Et il avait besoin que de 20 millions, je crois. Et un peu plus pour toute l'Afrique. Où s'en est? Est-ce qu'il vit encore? Parce qu'à un moment donné, il passait sur le bala, sur chaise roulante, quoi. Mais il doit avoir ses élèves. Hein. C'est un électrophysicien. Je suis à côté. Je crois qu'il faut. Si on alternait là, on serait heureux, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, madame Messi. Je pense que vous êtes la dernière auditrice pour le compte alors de cette émission. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Oui, il y a justement un auditeur qui nous interpellait concernant surtout le fait que nous n'avons pas parlé alors du football. Nous avons encore la journée de demain pour en parler. Alors, Michel, Quelle est votre réaction par rapport à tout ce que vous avez écouté de la part des auditeurs?
De la part des auditeurs.
Mmh.
Oh non.
Ou du moins si vous avez une réaction.
Ma réaction, c'est par rapport, par rapport au gaz. En fait, si vous écoutez bien les Togolais, c'est que le gaz coûte cher, coûte très cher. Et c'est de voir dans quelle mesure réduire ces prix-là, le prix de gaz. Parce que actuellement, avec la pluviométrie qui n'est pas au point, lorsque vous faites un tour dans les marchés périphériques, vous voulez chercher du charbon de bois, il n'y en a pas. Parce que le sol est très dur et c'est difficile pour les femmes qui produisent le charbon de bois de continuer à exécuter, en tout cas à effectuer leurs activités. Ce qui veut dire que si tel est le cas, on doit se rabattre sur le gaz, alors que le gaz est cher. Vous allez dans les marchés, vous demandez sur le prix d'haricots, le bol est à 3000. Est-ce qu'on achetait il n'y a pas longtemps à 1200 francs le bol? Ce qui veut dire que vraiment les ménages vraiment souffrent. Les ménages sont, en tout cas, la plupart des ménages, ce n'est pas tous les ménages, la plupart des ménages sont en difficulté. Il faut quand même faire quelque chose, parce que par rapport au prix du gaz, réellement, il y a un souci au niveau des Togolais.
D'accord. Et l'homme?
Trois points. Premier point, rapidement, c'est par rapport au gaz butane. En fait, en réalité, vous savez, c'est vrai que sur le coup, nous tous, on a envie véritablement de vivre dans une situation où les coûts sont moins chers et abordables, avec un pouvoir d'achat qui est accessible. Mais quand on fait quand on donne des explications, ce n'est pas pour embêter qui que ce soit. Mais on est quand même, quand vous faites des études ou quand vous allez à l'école, on ne vous demande pas que bon, le prix du gaz est cher. On vous dit pourquoi vous avez 4 heures pour développer. Vous donnez des explications. Vous n'allez pas donner des explications qu'on ramasse dans la rue. Vous comprenez? Vous donnez des explications scientifiques. Et donc, quand on vient, c'est aussi l'occasion de comprendre aussi. Et nous sommes là aussi pour ça, pour expliquer, pour que les gens comprennent.
Tout à fait.
Oui, voilà. Maintenant, après la finalité, quand on finit de donner des explications, la finalité de la décision, ce n'est pas nous qui la prenons. On fait des plaidoyers pour que l'État puisse aussi, pour que les gens comprennent d'abord. Parce que nous sommes tous unanimes sur un fait, les prix sont chers. Les prix sont chers. Maintenant, par rapport aux autres pays de la sous-région, comment cela s'explique? Alors, on a 4 heures de temps pour développer ça sur un papier. Moi, on ne va pas dire que c'est cher jusqu'à la fin. Je suis désolé, mais il faut quand même comprendre. C'est pour ça qu'on fait l'effort.
Je suis parfaitement d'accord.
Deuxième point, c'est par rapport à la JST. Je n'ai pas dit un mot dessus. Tout mon soutien à l'Association des journalistes sportifs du Togo pour ce jubilé d'or. Et pour l'initiative qui est quand même qui était programmée d'abord pour l'année dernière avant d'être finalement tomber sur cette année, et tout quand même tous mes encouragements pour la réussite de cette initiative. Troisième point, c'est par rapport au match de demain. On ne va pas revenir demain pour en parler, donc c'est l'occasion. On va dire bonne chance à l'équipe nationale des Italiens du Togo. Et franchement, avec ce qu'on voit là, l'ambiance et l'unanimité autour de l'équipe qui se dégage un tout petit peu là, je crois quand même que demain, on va quand même faire un bon match et remporter la victoire face au Libéré.
D'accord. Ambroise,
j'ai trois points aussi.
Ah oui,
premier point, rapidement. Ce que mon pote a dit, et l'homme a dit, nous on a rien contre l'homme. Il fait une démonstration scientifique. Nous, notre problème, c'est une démonstration sociale.
C'est-à-dire, le gaz est cher.
Quel que soit là où on importe le gaz là, que le gaz soit diminué à 5000 francs. Point.
Ouais. C'est ce qui vous intéresse.
C'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Tout ça, ce qu'il a dit là,
ouais,
c'est bon. Mais nous, c'est réduire le prix à 5000 francs. Merci à Elom pour sa démonstration scientifique. Maintenant, deuxième point, c'est à l'EGST. Ouais. Félicitations à mon frère Kodjo qui se bat avec nos autres collègues. J'ai commencé par le sport en 99-98. Mon premier reportage, c'était à Royal Cup à Accra. Je me rappelle, j'étais dans le bus de Amei, le club d'Amei, et
Maranata
avec Amélie Abalo, l'entraîneur, qui est décédé aussi. Donc, tous nos encouragements, mes confrères, c'était Franck Nyama et David Asimaï Junior, Capo Aivi. C'est vieux, ça fait pratiquement 24 ans. Et donc, mes encouragements.
Deuxième point.
Maintenant, c'est le dernier point. Le dernier point, c'est les éperviers. Et je vais prier ce soir pour que Daré puisse avoir la tête haute. Parce qu'il y a encore des gens dans l'ombre, sûrement. Je ne sais pas là où se trouve Baudet actuellement, mais ma prière, c'est que le Togo gagne 2-0. Pour déverrouiller le stade de Kédé. Je parle dans un sens spirituel. Déverrouiller veut dire tout, hein.
Mais est-ce que Daré n'est pas conscient de ces défis-là?
Oui, ça y est, c'est un grand poids qu'on met sur la tête de Daré. Alors que Daré n'est pas le problème, en fait. Daré ne peut pas faire un miracle si tous les ingrédients ne sont pas réunis. Ingrédients spirituels, les joueurs qui constituent l'ingrédient physique, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent faire des managements, tant au niveau du milieu, de l'arrière et de l'attaque pour pouvoir marquer. Mais il y a l'autre ingrédient, c'est le deuxième homme, c'est le peuple togolais. Quand vous êtes positif, vous accompagnez une équipe, l'équipe gagne. Quel que soit l'alpha. Et ça, on joue, c'est chez nous. Il ne faut pas oublier que c'est le Togo joue.
Tout à fait. C'est, donc, c'est le stade de Kégué.
Bonne chance.
D'accord. C'est 2-0. C'est 2-0, votre pronostic.
C'est pas un pronostic, mais on juste 10 débuts.
Ah, d'accord. Mabla.
C'est le philosophe, il est.
Tout à fait.
Mabla. Alors, disons qu'il n'y a jamais 203. Les confrères ont axé leur intervention sur 3 points.
Oui.
Je ne veux pas manquer aussi à cette tradition. D'abord, pour ce qui est du gaz, moi je comprends l'homme, je comprends Ambroise, mais beaucoup plus, moi je voudrais m'adresser au gouvernants. Même si on nous explique que c'est beaucoup plus du ressort du secteur privé, le gaz au Togo, mais c'est les dirigeants que les Togolais ont élus pour le gouverner. Et quand le Togolais à la base, qui n'a pas d'intérêt à se perdre dans des débats intellectuels, tout ce que l'homme dit, je vous assure que c'est d'un niveau un peu élevé. Il faut appartenir à une dimension pour comprendre.
Non,
et c'est vrai. Mais la réalité du Togolais, c'est
que comprend.
Lorsqu'on l'entend qu'au Burkina, le gaz se vend à 2000, et que chez lui au Togo, c'est à 6000, il y a problème.
Voilà.
Le Togolais ne va pas te demander, mais pourquoi au marché international, lui aussi doit acheter le gaz à 2000. C'est pour ça que je dis, moi, mon intervention... dans ce sens, c'est d'interpeller
oui.
justement les autorités à faire en sorte que le poids soit léger pour les Togolais.
D'accord, je sais que tu es un sportif. Maintenant, dernier point par rapport au match de demain.
C'est mon deuxième point. Il y a le...
Non, mais rapidement, non, si, puisque notre temps est déjà...
Par rapport au match de demain, disons qu'on ne peut que souhaiter bonne chance aux éperviers. C'est vrai que c'est le premier match du nouveau staff. Il n'y a pas que Daré. Il y a Balo Dossé, il y a Kader, il y a Gassak aussi pour les goals. Mais le public sportif a déjà repris, n'est-ce pas, la direction du stade. On a vu lorsque le Sénégal était venu. On l'a vu également lorsque le Soudan du Sud était arrivé.
Oui, merci beaucoup, Mabla. Oui, merci.
Je vais prier encore le deuxième homme d'être toujours derrière les joueurs.
Merci beaucoup, Mabla. Merci beaucoup, Mabla. Quand vous voulez, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, votre mot de la fin.
Merci d'abord à Canal FM de nous avoir donné l'opportunité de parler de la nuit du maïs sportif. Je vais remercier tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Le soutien institutionnel, le ministère de la Communication pour le parrainage, l'ancien ministre et le nouveau pour tout ce qu'ils ont fait pour que nous ayons cela. Nous disons également merci au CNO, c'est le patron des sports, qu'on le veuille ou non. Merci pour le soutien, pour l'accompagnement. Merci à tous les autres et nous donnons rendez-vous à tout le monde le samedi 7
septembre. Tout à fait. À partir de 20h.
De 20h. Et nous disons, les EPV gagnent demain, samedi, nous on fait la fête.
D'accord, voilà. Les EPV vont gagner demain, le samedi. Et on fait la fête ensemble à... D'accord, à Kakaveli. Merci beaucoup, monsieur Kodjo Avouleté, d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle tout simplement que vous êtes le secrétaire général alors de l'Association des journalistes sportifs du Togo. Merci d'être passé. Michel, merci à toi. Elom, merci. Ambrose, merci. Mangola, merci à toi aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Et nous attirons encore l'attention des uns et des autres sur l'ANAC aujourd'hui que nous rencontrons par Timoni et donc nous interpellons surtout, enfin nous attirons l'attention des uns et des autres sur ce phénomène. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Au revoir.